Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Julien Gilly, je suis coordinateur pour la communauté OpenWango. Donc on verra plus tard ce qu'est exactement la communauté OpenWango. Aujourd'hui, je vais essayer de vous sensibiliser en fait aux problèmes qu'on peut rencontrer et aux enjeux de la communication libre, que ce soit avec les logiciels que développe la communauté OpenWango ou avec d'autres logiciels, parce qu'on verra que la communauté du logiciel libre est très active. Avant de démarrer la présentation, j'aimerais remercier particulièrement donc Frédéric Couchet, Thomas Séché et l'April plus généralement qui œuvrent en fait tous les jours et ceci depuis très longtemps pour la diffusion des logiciels libres et pour défendre en fait un usage un peu plus citoyen des logiciels. Donc sans tous ces efforts-là, beaucoup moins de choses positives se seraient passées. Donc un grand merci à eux. On va commencer la présentation par en fait une explication des différents noms qu'on va employer. Donc on va employer le nom de Wengo, Wengophone, OpenWango. Donc j'essaierai de vous les expliquer en détail. Ensuite, on essaiera d'aborder les enjeux de disposer d'outils de communication libre. Pourquoi c'est important pour chaque citoyen de disposer de logiciels libres pour communiquer, que ce soit pour faire de la visioconférence, des appels audio, téléphoner vers le réseau téléphonique traditionnel, utiliser un logiciel libre sur son téléphone mobile, ou alors discuter sous forme de texte avec de la messagerie instantanée. On essaiera aussi de voir quel peut être l'intérêt de logiciels libres dans le cadre de communication un peu plus large, comme par exemple le travail collaboratif. On verra après donc comment la communauté OpenWango essaie de travailler avec les autres communautés du logiciel libre, avec aussi des partenaires industriels. Et on présentera donc deux solutions, une qui s'appelle le Wengophone et une extension pour Firefox qui est donc un navigateur web, un logiciel libre. Donc on essaiera de voir comment on commence à apporter une réponse et comment cette réponse va évoluer. Enfin, j'essaierai de présenter quelques chiffres concernant la communauté OpenWango, essayer de vous sensibiliser. Ouais, merci. Donc, essayer de vous sensibiliser à notre manière de travailler et comment vous pourriez contribuer donc au développement de cette communauté et donc au développement d'outils de communication libre. Donc, d'abord les noms. Wengophone, c'est un logiciel. J'en ferai la démonstration dans quelques minutes. C'est un logiciel qui est développé par une communauté de développeurs, d'utilisateurs, d'enthousiastes, de contributeurs, comme on les appelle plus généralement. Et cette communauté est sponsorisée intégralement pour l'instant et peut-être seulement en partie plus tard par Wengo, qui est un opérateur de téléphonie, un opérateur de voix sur IP. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de VoIP, de voix sur IP. Donc Wengo, c'est une société qui est une filiale de Neuf Télécom, qui emploie aujourd'hui 40 employés environ et qui travaille donc sur différents projets. Elle emploie donc notamment tous les développeurs internes de la communauté OpenWango, qui sont au nombre de 8 aujourd'hui. Et OpenWango donc se compose de 8 développeurs en interne payés par la société Wengo, plus des contributeurs externes qui sont au nombre, donc aujourd'hui on dénombre une trentaine de contributions significatives. Contributions significatives étant par exemple le support d'une webcam, d'un matériel particulier, ou l'ajout d'une fonctionnalité majeure. Donc voici pour les présentations. C'est important en fait de pas confondre surtout Wengo et OpenWango, parce qu'à terme ce sont deux entités qui vont peut-être se séparer. On pourrait par exemple imaginer une fondation OpenWengo qui serait financé par d'autres acteurs que Wengo, par d'autres acteurs que des fournisseurs de voix sur IP. On verra comment les choses se dérouleront. Ça dépendra surtout du succès des différents logiciels et de notre façon de mettre à disposition des outils libres pour communiquer. Alors, pourquoi c'est intéressant de disposer d'outils libres pour communiquer? On pourrait dire qu'il est suffisant de pouvoir se connecter, par exemple, à un réseau comme MSN, d'utiliser Skype pour passer des appels. À partir du moment où ça fonctionne bien, pourquoi changer? Pourquoi essayer de trouver une autre solution? Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, notamment par exemple, est-ce que ma communication est réellement privée? Qu'est-ce qui se passe quand j'utilise un logiciel propriétaire comme Skype, quand je passe un appel téléphonique? Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la conférence vidéo, de la conférence audio? Alors, le logiciel libre, il apporte une réponse simple, c'est que tout simplement, on publie le code source. C'est-à-dire que on a énormément de yeux qui surveillent le développement du logiciel et on peut garantir qu'on ne triche pas avec l'utilisateur. Donc on peut garantir par exemple que on n'a aucun spyware, on peut garantir que la communication est destinée uniquement à l'autre partie de la communication. Est-ce qu'on peut s'exprimer pleinement ? Aujourd'hui, on parle d'outils de communication. Avec Skype, on peut passer des appels vers des téléphones, on peut effectuer un petit peu de messagerie instantanée, on peut aussi faire de la vidéo. Avec MSN, on peut discuter avec un ensemble d'outils, que ce soit audio, vidéo ou texte. Mais à chaque fois, on est limité aux fonctionnalités qui sont imposées en fait par le fournisseur du logiciel. Aujourd'hui, avec un logiciel libre, on peut complètement repenser, personnaliser son logiciel, offrir de nouvelles fonctionnalités, demander à une société d'implémenter de nouvelles fonctionnalités. Si on dispose de certaines compétences en informatique, on peut tout à fait améliorer le logiciel très simplement. Il suffit de prendre part à la communauté et les choses se passent toutes seules. Donc ça, c'est important. A priori, se restreindre dans les outils de communication, c'est quelque chose d'assez dérangeant. Autant on peut se restreindre quand on joue à un jeu vidéo, par exemple, restreindre les mouvements d'un personnage d'un jeu vidéo n'est pas gênant, il suffit qu'il nous amuse. Là, quand il s'agit de communication, on doit pouvoir ne pas se restreindre dans les moyens dont on dispose. Donc le logiciel libre, là, il apporte une vraie réponse. Alors, la communication ne doit pas également être un privilège. C'est-à-dire, aujourd'hui, un fournisseur de logiciels propriétaires peut restreindre la diffusion du logiciel aux utilisateurs qui ont payé seulement, par exemple, ou aux utilisateurs qui disposent d'un système d'exploitation payant, ou en tout cas d'un système qui nécessite une certaine quantité de privilèges pour y avoir accès. Avec le logiciel libre, on peut faire tourner des outils de communication sur n'importe quel système d'exploitation, n'importe comment. On n'a pas besoin d'avoir, par exemple, un écran pour pouvoir communiquer, ou un affichage couleur, c'est accessible aux pays en voie de développement. Donc le privilège ici, il n'y a pas besoin de privilège pour pouvoir communiquer. Il y a un autre principe qui aujourd'hui est assez en vogue dans les télécommunications qui s'appelle le réseau stupide. Alors en fait, le réseau stupide, c'est un concept très très simple qui consiste à identifier le réseau comme étant simplement un médium dans lequel on fait passer tout ce qu'on veut. Le but étant que les opérateurs mettent à disposition des gros tuyaux dans lesquels on peut faire passer énormément de données, mais ne s'interposent surtout pas entre l'utilisateur et les fournisseurs de différents services. Ça veut dire que, par exemple, des opérateurs comme AOL à l'époque, qui mettaient en place des plateformes spécifiques pour se connecter, il fallait un kit de connexion particulier, on ne pouvait pas naviguer sur le web sans avoir un kit de connexion AOL, sans s'abonner. Donc tout ça, ça va à l'encontre de ce qui est intéressant aujourd'hui sur le réseau. Donc aujourd'hui, on a particulièrement en France des opérateurs comme Free, Neuf Télécom, Club Internet, qui mettent à disposition des gros tuyaux. On a des connexions à 20 mégabits. Ce qui est intéressant, c'est surtout que ces opérateurs-là ne se mettent pas dans notre chemin, ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce qui se passe si ce sont les fournisseurs de logiciels maintenant qui nous mettent des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai envie de pouvoir discuter avec mes amis sans me limiter aux fonctionnalités offertes par MSN? Donc pour ça, j'ai plusieurs solutions. On verra que le logiciel libre, c'est une bonne solution pour s'affranchir de ses limites. Le logiciel libre peut constituer au-dessus du réseau stupide une autre couche, une couche logicielle qui ne limite pas du tout les moyens de communication de l'utilisateur et qui lui offre énormément de possibilités. Alors, l'autre point qui est intéressant, mais il y en a plein d'autres, on pourrait en parler pendant des heures, la mutualisation qui profite à l'utilisateur. Aujourd'hui, MSN et Yahoo, par exemple, sont en train de mettre en place des accords d'interopérabilité. Ça signifie tout simplement qu'il y a des processus complexes qui se mettent en place pour interconnecter plusieurs communautés. Pardon. Avec le logiciel libre, notamment des standards ouverts également, comme le précédent orateur en a parlé, on peut faire tomber les barrières entre les communautés et on peut faire communiquer tout le monde entre eux. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire la mutualisation dans quel sens ? Un opérateur de télécom aujourd'hui qui voudrait fournir un moyen pour ses utilisateurs de faire la vidéoconférence ou de la conférence audio ou du chat avec du texte, il peut utiliser un logiciel libre, le mettre en place et interconnecter sa communauté avec les autres communautés qui utilisent ces mêmes logiciels libres, ces mêmes standards ouverts. Donc ça profite complètement à l'utilisateur. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les logiciels libres ne sont pas en retard par rapport à toutes ces solutions de communication. À une époque, par exemple, pour en revenir à OpenOffice, on disposait d'une solution qui s'appelait Word, un petit peu Word Perfect qui sortait des sentiers battus. Mais les logiciels libres sont arrivés, on va dire, une bonne dizaine d'années après et ont dû batailler ferme pour s'imposer et pour avoir leur droit de cité. Dans le domaine de la communication, de la voix sur IP, de l'instant messaging, la situation est un petit peu meilleure pour l'instant parce que beaucoup de logiciels libres existent déjà et ils implémentent beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Donc on peut citer Ekiga, Copette, Game, Télépathie, Tapioca, et il y en a une bonne trentaine. Et ils permettent tous de téléphoner vers des téléphones fixes, vers des téléphones mobiles, de faire de la visioconférence, de faire de la messagerie instantanée avec du texte, d'avoir un avatar, de faire de la visioconférence sur des protocoles qui existent déjà. Donc on a des fonctionnalités très avancées. Il y en a même qui équipent des terminaux qui sont vraiment chouettes à utiliser, comme le Nokia 770, et qui sont diffusés à très grande échelle aux utilisateurs. Donc on voit que les logiciels libres ici ne sont pas du tout en retard, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir. La communauté est très dynamique, de la même manière que l'industrie de la voix sur IP ou la communication sur IP est dynamique. On entend parler de Skype avec un rachat par eBay, par exemple, qui a été énorme, à une hauteur de 4 milliards de dollars à peu près. On entend parler de Google avec Google Talk, qui fournit un logiciel propriétaire mais qui se base sur un standard ouvert pour le protocole. Mais dans la communauté du logiciel libre, c'est en pleine effervescence aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de développeurs qui travaillent sur beaucoup, beaucoup de projets et qui ont tous des idées vraiment très intéressantes pour faire avancer l'utilisateur dans ses solutions de communication. Alors, on verra que parmi ces solutions, OpenWango, la communauté OpenWango propose certaines solutions. Elle permet aussi à d'autres projets de tirer parti de ces efforts pour ajouter des fonctionnalités. Et on verra aussi que la communauté OpenWango interagit avec ces projets pour récupérer des fonctionnalités. Donc c'est ça qui est intéressant. On travaille dans un ensemble de projets interconnectés et pas concurrents. Ça, c'est important aussi et ça donne des armes au logiciel libre pour donner des outils de communication libre à l'utilisateur. Alors, l'autre aspect, mis à part les logiciels, pour communiquer, c'est le protocole. Quel langage utilise l'application pour communiquer avec l'application ou les applications qui sont à l'autre bout du réseau? Donc, de ce côté-là aussi, on a bien avancé. La personne qui parlait d'OpenOffice juste avant parlait du format ouvert ODT. Eh bien là aussi, on a des protocoles ouverts, des standards ouverts comme SIP et Jabber, qui sont un petit peu l'équivalent du format ODT, mais pour la communication. En l'occurrence, avec SIP, on peut passer un appel téléphonique depuis un ordinateur. Donc, par exemple, je me connecte avec mon ordinateur, c'est ce que je ferai tout à l'heure, à un réseau, et je peux passer un appel vers un téléphone mobile, vers un téléphone fixe, vers aussi un autre ordinateur. Donc SIP, c'est un protocole qui est normalisé par l'organisme international qui normalise la plupart des protocoles utilisés sur Internet. On a aussi Jabber qui se base sur XML, donc la même technologie sous-jacente que le format ODT, et qui permet d'effectuer de la messagerie instantanée, aussi des appels audio, bientôt peut-être la visioconférence, et qui a des fonctionnalités assez étendues. On a un autre protocole comme SIP Simple qui, lui, est un petit peu bancal parce que il n'a pas encore été complètement normalisé. Il est utilisé de manière un petit peu différente par tous les fournisseurs qui le mettent en place. Mais ça permet notamment de consulter la présence de ses contacts en ligne ou pas et d'envoyer des messages texte simples. On verra comment on a mis en œuvre SIP Simple dans le cadre de l'extension Firefox chez OpenWango. On a aussi des standards de facto qui sont issus de projets de logiciels libres. Donc, par exemple, IAX, c'est le protocole de communication du logiciel qui s'appelle Asterisk. Asterisk, donc, ça signifie que c'est un logiciel qui peut tout faire en termes de communication. Et par exemple, ça peut vous permettre de mettre en place chez vous une passerelle de communication entre votre ordinateur et tous les services de communication qui existent. Pour une entreprise, ça peut permettre, par exemple, de faire office de standard, de boîte vocale, de redirection d'appel vers tous les services de la société quand un appel entrant arrive, par exemple. Donc c'est un logiciel qui est un couteau suisse de la communication, un logiciel libre avec une communauté très très active, et ils ont mis en place un standard qui est en train d'être adopté par de plus en plus de gens et qui n'a pas encore été normalisé. Mais ça va venir prochainement. Donc on voit ici qu'on a 3-4 standards qui sont intéressants et qui aujourd'hui permettent à des millions de gens, dès aujourd'hui, de communiquer. Il y a un opérateur qui s'appelle Vonage, par exemple, aux États-Unis, qui a bien plus qu'un million d'utilisateurs, qui aujourd'hui est en train de faire une offre publique de rachat et d'entrée en bourse. Et eux utilisent notamment SIP. Il y a aussi d'autres logiciels comme Gizmo qui utilisent Jabber pour la messagerie instantanée. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont une activité très soutenue qui utilisent ces standards-là. À l'opposé de ceci, quand on communique sur Windows Messenger, sur Yahoo Messenger, sur Skype, on utilise des protocoles qui sont complètement fermés. Notamment pour Skype, où là, l'analyse du protocole, l'analyse des moyens de communication est très très difficile. Skype a mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour cacher au maximum le fonctionnement de l'application aux utilisateurs. Il y a un ou deux mois, il y a eu deux personnes qui ont fait une conférence à une conférence qui s'appelle Black Hat, donc qui regroupe en fait des spécialistes de la sécurité. Ils ont parlé du fonctionnement de Skype et ils ont montré à quel point il était difficile, notamment, d'être compatible avec Skype et de comprendre comment l'application fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr de ce qui se passe avec vos données quand elles transitent sur le réseau de Skype. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Un autre point important, je reviens, c'est la fragmentation des moyens de communication tue la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez autant de produits, autant de communautés d'utilisateurs, ce qui est un petit peu gênant. Aux États-Unis, énormément d'utilisateurs utilisent IM, qui est le produit d'AOL, beaucoup plus que des gens qui utilisent MSN en France. En France, on utilise quasiment tous MSN. C'est-à-dire qu'on a deux communautés qui sont séparées. Elles sont séparées seulement parce qu'elles utilisent deux logiciels différents. Donc ça empêche les utilisateurs en fait d'entrer en communication avec les gens dont ils ont envie. Alors, les défis qui se posent à une communauté comme OpenWingo qui a envie de fournir aux utilisateurs des solutions concrètes pour communiquer librement, c'est d'une part attirer les développeurs. Alors pourquoi ? On a une de ces raisons entre parenthèses qui est obtenir du matériel certifié. Quand vous allez chez Surcouf ou dans un autre magasin pour acheter une webcam ou un casque pour pouvoir passer des appels audio, c'est important qu'il marche avec votre logiciel, c'est important qu'il fonctionne très bien. Aujourd'hui, Skype arrive à être certifié pour beaucoup, beaucoup de matériel. Et pour ça, ils ont dû travailler pour avoir énormément de partenariats. Donc aujourd'hui, nous, on a, dans le cadre d'OpenWingo et tous les autres logiciels libres, on a très peu de partenariats avec des fournisseurs de matériel. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un casque audio qui est certifié pour l'utilisation avec Ekiga, par exemple, ou avec le Wingophone. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc il faut travailler là-dessus. Et pour ça, il faut attirer des développeurs qui justement développe des passerelles entre ce matériel-là et nos logiciels. Ensuite, il faut satisfaire les utilisateurs, parce que c'est en utilisant nos logiciels que les utilisateurs vont se sensibiliser aux enjeux de la communication libre. Pour ça, il faut travailler un maximum sur l'ergonomie des logiciels, il faut travailler un maximum sur les fonctionnalités également. Donc c'est un vrai travail d'innovation, de recherche et de développement. Il faut proposer une vraie valeur ajoutée aussi. Il ne s'agit pas seulement de proposer l'interconnexion avec les autres réseaux de messagerie sans apporter de fonctionnalités nouvelles ou un véritable bénéfice pour l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur se dise « c'est en utilisant ce logiciel que j'arriverai à mieux communiquer ». Il faut également, et ça c'est peut-être l'aspect le plus difficile, en fait conjuguer l'inertie de la communauté, c'est-à-dire les différents contributeurs, les développeurs, les gens qui traduisent les logiciels, les gens qui rapportent les bugs, les gens qui interagissent entre eux sur les forums pour partager des idées, essayer d'améliorer les logiciels. Donc il faut conjuguer l'inertie de toute cette communauté avec les contraintes de l'industrie, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à avoir suffisamment d'utilisateurs pour rendre justement le logiciel et la communauté active, pour qu'on ait de plus en plus de fonctionnalités et pour qu'on ne soit pas trop en retard par rapport aux solutions comme MSN, Skype et autres. Donc nos réponses à tout ça, c'est pour l'instant deux logiciels dans la communauté OpenWango, notamment un logiciel qui s'appelle WangoPhone et qui est sorti en version bêta 2.0 hier. Donc je vais vous faire une petite démonstration. J'espère que tout va bien fonctionner. Et je vais notamment vous montrer comment on peut passer un appel audio, comment on peut avoir une communication vidéo et comment se connecter aux différents réseaux de messagerie instantanée. Alors, aujourd'hui, je fais la démonstration sous Windows, mais le logiciel fonctionne pour d'autres sur d'autres systèmes d'exploitation, notamment Linux, GNU/Linux, devrais-je dire plutôt, et macOS 10. Donc macOS 10, que ce soit sur processeur Intel ou PPC. Donc avec ce logiciel, pour l'instant, on peut se connecter seulement aux fournisseurs de services qui s'appelle Wango, mais dans la prochaine version, on pourra se connecter à n'importe quel fournisseur de services. Ça veut dire qu'on pourra bénéficier du meilleur tarif de communication selon la situation. Je suis connecté, oui. Ok, très bien. Bon, on y est arrivé. C'est très bien. Donc ici, en fait, on est connecté au fournisseur de services Wango, qui se base sur le protocole SIP. Donc tout à l'heure j'ai parlé du protocole SIP, qui est un protocole standardisé, un protocole ouvert, et je vais pouvoir passer un appel audio et passer également un appel vidéo. Donc je vais essayer de faire en sorte de pas avoir de l'arsène. J'espère que ça sera possible. On va essayer de faire fonctionner les services d'IM de messagerie instantanée en se connectant à différents réseaux, à MSN, à Yahoo. On va passer à l'extension Firefox, ce sera, j'espère, un peu plus simple. Donc en fait, l'extension Firefox, elle vise simplement à intégrer les outils de communication, que ce soit la messagerie instantanée ou les appels audio et les appels vidéo, peut-être à l'avenir, dans le navigateur. Alors on ne sait pas encore si les cas d'utilisation sont encore très très intéressants pour l'utilisateur, parce qu'on manque un petit peu de retour. Mais pour nous, ça nous paraît intéressant, en même temps qu'on navigue sur le web, d'avoir à disposition ces outils de communication. Ça devient rapidement très très pratique, et au fur et à mesure de l'utilisation, on se rend compte qu'en fait, on peut plus s'en passer en fait. Donc là, je vais m'identifier. Ok. Donc là, en fait, je me suis connecté au fournisseur de services Wango. On pourrait imaginer que ce soit un autre fournisseur de services comme Free World Dial-Up ou alors Free qui a sorti récemment son service de téléphonie sur Internet. Et puis, on peut passer des appels. Donc, par exemple, ici, je vais appeler le service d'écho. Alors, là, la différence avec Skype et les Skype Out, c'est... En termes de fonctionnalité, il n'y en a aucune pour la fonctionnalité d'appel audio, c'est-à-dire qu'on appelle un téléphone de la même manière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir son fournisseur de service. C'est-à-dire que vous pouvez choisir quel est l'opérateur qui va vous faire transiter entre le réseau Internet et le réseau téléphonique. Aujourd'hui, chez la plupart des fournisseurs de services de téléphonie sur Internet, les tarifs sont moins chers que pour Skype, par exemple. Donc Skype est peut-être classé dans les 30 ou 40e en termes de tarifs. Et donc, selon la destination, le fait de disposer d'un outil comme celui-là, ça peut vous permettre de choisir le tarif que vous allez payer pour une communication donnée. En termes de fonctionnalité par rapport à Skype, donc malheureusement, j'ai pas de chance et je peux pas vous montrer les fonctionnalités de communication sur... au niveau des annuaires, vous avez la liste des contacts. Si vous vous connectez à MSN à Yahoo, à tous ces protocoles, tous ces services de messagerie instantanée, on a donc la liste de contacts qui est téléchargée, la liste de contacts qui est directement dans le logiciel. Donc là, c'est le logiciel qui fait service d'annuaire. Pour les opérateurs de téléphonie, par contre, quand vous voulez passer des appels, ils mettent eux en place ou pas, ça c'est leur choix, un service d'annuaire. Pour Wango, on en a un qui est intégré. Et donc, dans le logiciel, on peut afficher une fenêtre, faire une recherche sur le nom, sur la ville, sur le pays, ou sur un début de numéro de téléphone, Et donc, on a une fonctionnalité d'annuaire. Mais ça, c'est une fonctionnalité qui est mise en place séparément par le fournisseur de services. Avec le logiciel, c'est possible d'y avoir accès, mais ça dépend de votre fournisseur de services. Là, donc sur la gauche, on voit que j'ai une liste de contacts, notamment avec mon contact à moi. Ici, mon identifiant, c'est j.gili. Et donc, on peut faire du chat directement, par exemple, dans Firefox. Et donc, on a accès à des fonctionnalités de communication ici qui sont audio et du chat sous forme de texte. Le chat que j'ai envoyé ici, le message, il a transité grâce au protocole SIPSimple dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est un standard ouvert en instance de normalisation. Et donc ici, on voit qu'on peut très bien utiliser des logiciels libres comme Firefox et en l'occurrence l'extension Wangophone pour Firefox. Et un standard ouvert pour avoir des fonctionnalités de chat et de téléphonie. Si je change mon statut de connexion, par exemple que je marque comme étant away, on a ici la présence qui est aussi gérée par un protocole qui s'appelle SIPSimple, qui est un protocole ouvert. Et donc on voit qu'on a les mêmes fonctionnalités qu'une autre solution de messagerie instantanée comme MSN, Yahoo ou autre. Alors l'intérêt de la version bêta dont la démonstration a malheureusement échoué, c'est de faire converger les différents outils de messagerie. Donc, audio, vidéo, et tous les protocoles de messagerie instantanée qui existent. Notre but, c'est d'avoir une interface utilisateur qui soit simple, et qui permette, en fait, à n'importe qui d'utiliser ces outils très facilement, et de jongler avec ces différents protocoles et ces différents modes d'accès très facilement. J'aurais vraiment aimé vous faire la démonstration de la vidéo, notamment parce que on voit qu'on a une qualité, que ce soit en plein écran ou avec une fenêtre minimisée, qui est tout à fait équivalente à celle qu'on peut retrouver avec un logiciel comme Skype, par exemple. Donc, l'intérêt qu'on trouve ensuite, c'est surtout sur ce que nous propose. Donc là, je vais revenir à la présentation. C'est surtout ce que nous propose. Le logiciel libre en termes de perspective d'avenir. La communauté OpenWango, avec ses contributeurs et avec ses partenaires, a beaucoup de projets à réaliser dans le futur proche. Et donc notamment, c'est intégrer plus de moyens de communication. Aujourd'hui, on peut faire simplement du chat sous forme de texte. Et faire des appels audio et vidéo, mais à terme, on pourra effectuer du travail collaboratif. Il y a des logiciels, notamment comme Gobi, qui permettent de faire de l'édition de code source ou du travail collaboratif. On pourrait imaginer, par exemple, éditer un document OpenOffice de manière collaborative. Et tout ça, ce sont des moyens de communication qu'on va intégrer au logiciel Wangophone. Ce qui est important aussi, c'est être indépendant vis-à-vis de l'opérateur, justement pour éviter de cloisonner l'opérateur à un seul tarif de communication. Ce qui est très important également, Skype est relativement en avance par rapport à tout le monde, c'est le fait de mettre en place des communications sécurisées. Si vous utilisez Skype, toutes les communications audio et vidéo sont chiffrées avec un algorithme de chiffrement qui est assez fort, et donc ça vous permet de garantir la confidentialité. Donc pour ça, OpenWango en l'occurrence, mais aussi d'autres projets de logiciels libres sont en train de travailler. Nous, personnellement, on a décidé de travailler avec un partenaire qui s'appelle Everbee, qui met en place des solutions de sécurité. Et donc, on va apporter le chiffrement des communications d'ici un ou deux mois. Les supports des terminaux mobiles, c'est aussi très intéressant. Par exemple, notamment avec des boîtiers comme la Freebox, on s'aperçoit que à la maison et en fait dans le proche voisinage, on a à disposition des connexions Wi-Fi qui sont très performantes et qui permettent de faire passer du contenu multimédia, comme de la voix, de la vidéo ou des messages de texte. Ça signifie qu'avec votre téléphone, qui maintenant est de plus en plus perfectionné, de plus en plus puissant, vous pouvez utiliser un logiciel qui utilise les mêmes protocoles de communication que ceux utilisés par vos logiciels qui sont stockés sur votre ordinateur personnel et communiquer. OpenWango est également en train de développer une solution sur smartphone et sur Pocket PC pour permettre à des gens d'avoir la présence de leurs contacts. Passer des appels audio, passer des appels vidéo, donc sur des téléphones mobiles. Il y a également d'autres projets qui travaillent là-dessus, et donc la communauté est tout à fait active sur ce genre de projet. Alors l'extension Firefox, je vous en ai fait la démonstration à l'instant. Malheureusement, on n'a pas pu passer d'appel audio. À l'avenir, on va probablement intégrer donc les différents protocoles de messagerie que sont MSN, Yahoo et autres, Jabber par exemple. Peut-être la vidéo, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile techniquement parce qu'il est assez complexe d'afficher de la vidéo dans un navigateur web. On a une fonctionnalité de click-to-call aussi, ça nous permet en fait tout simplement de cliquer sur n'importe quel numéro affiché dans une page web et de passer un appel directement, donc ça c'est assez intéressant. Et puis il y a un autre projet qui va éventuellement démarrer, qui est une extension Thunderbird. Donc Thunderbird qui est le client de messagerie du projet Mozilla. Et donc ça vous permettra d'avoir dans l'annuaire vos numéros de téléphone, les identifiants de contact des messageries instantanées de vos contacts email, et d'accéder en quelques clics en fait à des fonctionnalités de messagerie instantanée ou d'appel audio. Alors, ce qui est très important, c'est justement d'une part la communauté OpenWingo en elle-même, mais aussi les connexions qu'elle a avec les autres projets. Donc j'ai dit tout à l'heure que d'autres projets étaient très actifs, mais c'est vrai, la communauté OpenWingo est loin d'être toute seule à développer ce genre de solution. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui existent et nous-mêmes, nous basons nos logiciels sur énormément de logiciels existants. Que ce soit par exemple pour gérer les différents formats vidéo, se connecter aux différents protocoles de messagerie instantanée. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Game, par exemple. On pourrait parler donc de télépathie, de Twinkle, plein de logiciels comme ça qui existent et qui vous permettent de communiquer librement. Ce que je retiendrai comme caractéristique pour la communauté OpenWingo, c'est d'une part l'ouverture, donc que ce soit l'utilisation des standards ouverts, la diffusion de logiciels libres, mais aussi le pragmatisme. Alors le pragmatisme, c'est important parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la nécessité d'attirer des développeurs, mais c'est avant tout important et primordial d'attirer les utilisateurs. Donc avoir, malheureusement, pas comme aujourd'hui pour la démonstration ici, un logiciel qui fonctionne bien, qui soit stable et qui soit très riche fonctionnellement. Donc tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour la communauté OpenWingo et tous les contributeurs. Et enfin, attirer les développeurs et les utilisateurs en mettant en place une communauté accueillante et en tissant des liens avec les autres projets. Ça, c'est très important aussi. On parlait éventuellement d'organiser donc une journée où on présenterait tous ces projets de communication. Et on verrait qu'il y a énormément de projets existants. Donc pour conclure, parce qu'il va falloir faire vite et que la présentation d'après est très intéressante, les outils de communication doivent être libres pour les raisons que j'ai exposées juste avant, pour ne pas tout simplement limiter les capacités de l'utilisateur. Le choix du logiciel libre n'est pas du tout le choix le plus simple qu'on puisse faire, parce que ça nécessite donc de se confronter à des problématiques, que ce soit la licence, le reverse engineering, l'inertie de la communauté par rapport aux contraintes imposées par les concurrents qui sont des logiciels propriétaires. Mais je pense, et j'en suis même persuadé, je pense que la communauté, que ce soit la communauté OpenWingo ou toutes les autres communautés de logiciels libres qui se mettent en place autour des outils de communication, a largement les capacités de combler les utilisateurs en termes de fonctionnalité, en termes de liberté. Il y a énormément de projets qui sont en cours, énormément de projets qui mettent déjà à disposition des bons outils aux utilisateurs. Et j'ai très confiance en le fait qu'on va arriver très très prochainement, dans les mois qui viennent, à avoir des logiciels très fonctionnels et qui vont dépasser les logiciels propriétaires, comme le fait par exemple OpenOffice aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et dans tous les cas, je vous invite à consulter notre site web qui est openwingo.org et aussi à vous renseigner sur les différentes solutions en termes de logiciels libres qui existent dans la communauté donc des logiciels libres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.